BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour un débat sur les derniers livres qui viennent de sortir autour de Daniel Cohen. Et puis vous retrouverez nos chroniqueurs, Benahouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, Marjorie Adelson, notre bibliothécaire qui nous parlera d'échecs aujourd'hui. N'oubliez pas tous nos comptes sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, librairie de l'écho, partout, hein, c'est à peu près voilà, le même nom. Vous savez que vous pouvez vous inscrire pour gagner les livres dédicacés de nos auteurs et nos deux gagnants du jour. C'est Benoît et Flo Flo, voilà, qui recevront les livres de nos deux invités que nous allons découvrir tout de suite. Après des pénuries qu'on ne pensait plus connaître, après la flambée des prix des produits alimentaires, après les manifestations de paysans à travers toute l'Europe, comment va-t-on se nourrir demain? Qui va nous nourrir et à quel prix? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre dans cette librairie de l'écho avec nos deux invités. Sébastien Abyss, bonjour.
Bonjour.
Sébastien, vous êtes directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS, enseignant, et vous publiez « Veut-on nourrir le monde ?» aux éditions Armand Collin, le voilà, il est là. Sous-titre, franchir l'Everest alimentaire en 2050. Et puis alors, vous venez de nous l'apporter, et je vous en remercie. Le Déméter 2024, monde agricole, cultiver la paix en temps de guerre. C'est quoi cette revue
Le Déméter, c'est un ouvrage annuel de prospective,
ouais,
qui est une revue académique, universitaire, qui sort tous les ans. C'est un collectif, il y a plus de 50 auteurs, une centaine de contributeurs du monde entier. Et l'idée, c'est tous les ans de faire un point sur les grandes dynamiques agricoles, alimentaires et de durabilité dans le monde, et regarder les stratégies de puissance, les évolutions du commerce, les évolutions des performances de transition. C'est un ouvrage indispensable pour comprendre la marche du monde.
Formidable, eh ben, vous nous en direz un mot. Forcément, dans les réponses que vous me ferez, il y aura des réponses inspirées par ce Déméter. Et puis Philippe Ducroquet, bonjour.
Bonjour.
Philippe, vous êtes économiste, ingénieur en agriculture, vous avez été banquier, directeur général d'Unigrain, et vous publiez, alors là, un ouvrage qui nous a un peu époustouflé, vous le publiez avec Jean-Paul Charvet, je vous le montre, c'est très lourd, c'est très gros, c'est très illustré, c'est l'Atlas des politiques agricoles et alimentaires. Et vous posez la même question, finalement, que Sébastien Abyss. Comment nourrir la planète? C'est aux éditions du Rocher. Je commence avec vous, Philippe Ducroquet. Est-ce qu'on risque de connaître à nouveau des famines? Puisque manifestement, vous dites qu'il y a eu une diminution, mais que cette diminution, eh bien, elle s'est interrompue.
Alors, des famines peut-être pas, mais la sous-nutrition s'aggrave. Il y avait 1 milliard de personnes qui étaient en situation grave de sous-nutrition, et on était descendu à 600 millions, et on est remonté à 800 millions avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les guerres civiles, et donc ça va plutôt dans le mauvais sens, et c'est surtout en Afrique. L'Asie va mieux,
ouais,
mais l'Afrique, pour l'instant, ça se dégrade.
Alors, un point très important, Philippe Ducroquet, les famines, la malnutrition, ça n'est jamais à cause d'une insuffisance de production.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas où il faut, elle n'est pas au bon endroit. Vous avez raison, il y a trop de nourriture d'une certaine manière. Simplement, elle n'est pas au bon endroit parce que, ben, il y a des endroits où il y a des déserts, mais il y a aussi des endroits où, si vous voulez, les rendements n'ont rien à voir. Les rendements en Afrique sont de 7 quintaux hectares, chez nous ils sont de 70 quintaux. Sont 10 fois plus. En Afrique, on travaille 1 hectare, et ici, on travaille 100 hectares. Donc, la productivité est 1000 fois moindre.
Ouais.
Donc, ça n'a rien à voir, si vous voulez, on ne peut pas comparer.
Mais vous dites que les causes principales, c'est les conflits armés,
oui,
et le retour des conflits,
oui,
armés,
oui,
la crise climatique,
oui,
et donc les politiques agricoles.
Il y a eu le Covid aussi et la guerre en Ukraine. Depuis, rien que le Covid et la guerre en Ukraine, sur 2 ans, il y a 150 millions de personnes en plus qui sont sous-nourries, gravement sous-nourries.
Alors, ce livre, il analyse les causes des réussites et des échecs des politiques agricoles et alimentaires menées dans une trentaine de pays cinq continents. Alors à chaque fois, hein, je feuillette hein, pour vous, mais c'est extrêmement extrêmement illustré, beaucoup de cartes, de tableaux. Quand on essaie de faire la synthèse de tout ça, qu'est-ce qui conditionne finalement la réussite ou l'échec d'une politique agricole? Est-ce que c'est son orientation politique, par exemple? Est-ce que le fait que ce soit protectionniste, libéral, ou est-ce que ça joue pas?
Alors, je suis parti de cette idée-là. Ouais. Est-ce que, parce que j'ai vécu longtemps en Afrique avec quelqu'un que vous connaissez peut-être même pas, mais le Mirdé Rouge, Jean-Baptiste Doumingue.
Ah, ben oui,
il y a longtemps.
Bien sûr.
Bon. Et donc, Doumingue ne voyait que des chefs d'État, et moi, je voyais les ministres d'agriculture. Et je me disais, qu'est-ce que je ferais à leur place? Est-ce que j'aurais une politique libérale? C'est-à-dire, finalement, pour pas qu'il y ait des émeutes de la faim, acheter du riz pas cher en Thaïlande, ou est-ce que j'ai une politique protectionniste, c'est-à-dire je développe les agriculteurs, l'agriculture, la transformation agricole. Et finalement, la plupart des pays africains ont une politique libérale. Mais c'est un peu, comment on va dire, d'apparence. Parce qu'en réalité, ils achètent pas cher. Si vous voulez, il y a une coalition contre les paysans. Il y a un intérêt partagé entre les dirigeants en Afrique et les urbains. Pour éviter les émeutes de la faim, on préfère acheter pas cher en Asie ou ailleurs, le riz par exemple, que de développer l'agriculture.
Mais c'est quoi les conditions d'une politique agricole alors, qui fonctionne?
Ça, j'ai essayé de bien travailler là-dessus.
Ouais.
Et il y a d'abord des préalables très importants, c'est un pays stable.
Ouais. Hein,
un pays, si vous voulez, Haïti, Madagascar, c'est pas stable. Il faut ensuite qu'il y ait un peu de transformation agricole autour pour que, par exemple, la Thaïlande a assez bien réussi parce qu'il y a des routes partout, il y a des dispensaires, il y a des hôpitaux, il y a de l'industrie agroalimentaire autour qui absorbe les populations. Et donc, il faut un ensemble de, si vous voulez, de paramètres qui font que ça puisse marcher. Ensuite, il faut de l'agriculture. En agriculture, il faut un peu d'hybride. Il faut quand même des choses qui s'améliorent. On ne peut pas rester dans la tradition complète. Donc, il y a quelques hybrides qui ne coûtent pas forcément trop cher, un peu d'engrais, hein, ça c'est du point de vue agricole. Et puis il faut des paysans organisés, hein. En France ça a marché parce que l'État et le monde agricole ont travaillé ensemble depuis l'après-guerre.
Ouais.
Les États-Unis pareil. En Afrique c'est souvent pas le cas, pas toujours, mais c'est souvent pas le cas.
Est-ce qu'il y a des pays dont vous vous dites ils ont un potentiel extraordinaire et d'autres qui dont vous voyez qui gâchent complètement leur chance?
Alors justement, je me suis aperçu en faisant ce travail que c'est pas parce qu'un pays a des bonnes terres, je pense à la Zambie, je pense à Madagascar, qu'il n'y a pas de la sous-nutrition. Ça va pas ensemble parce que si vous voulez, la gouvernance n'est pas bonne. Et donc, vous avez la Zambie, le Zimbabwe, c'est remarquable. Hein. C'est où vous avez prix de revient, si c'est bien fait, moins cher qu'aux États-Unis. Mais ça, comme la gouvernance est mauvaise, comme il y a beaucoup de corruption, quand même, en général, hein. les achats à l'étranger, au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, c'est pas gratos. Hein. Il y a beaucoup de gens qui servent en passant. Et donc, ça fait que c'est difficile d'échapper au libéralisme.
Vous dites qu'il y a une stratégie qui est toujours gagnante, c'est ce que vous appelez le pluriel.
Oui.
C'est-à-dire, ça consiste en quoi ?
C'est cet ensemble, c'est tout cet ensemble d'ingrédients qui font que s'il y a un pays stable, si la politique agricole est bien soutenue dans la durée de la même manière, si les engrais sont mis au bon endroit, si vous voulez, il y a des pays qui marchent bien, hein, alors, où il y a des pays aussi où l'argent du pétrole est utilisé pour l'agriculture. Mais en général, c'est la malédiction. Alors, Nigeria, catastrophe. Dès qu'il y a eu du pétrole, terminé. Et l'agriculture est tombée. L'Algérie, par rapport au Maroc, a pas très bien réussi parce qu'elle a...
Alors qu'elle a un potentiel extraordinaire.
Oui, agricole moyen, on va dire, hein, pas extraordinaire, mais il y a un potentiel agricole.
Qui n'est pas exploité.
Elle a pas aussi bien réussi que le Maroc.
Parce
que le Maroc a bien développé son agriculture, y compris les petits paysans, pour amortir les chocs, si vous voulez, les années de sécheresse.
Est-ce que, compte tenu de ce qu'on anticipe sur le changement climatique, etc. Est-ce qu'il y a des régions qui vous semblent vouées à une sorte d'inexorable déclin et d'autres qui vous semblent au contraire amenées à prospérer? Ça va quand même changer la donne, le dérèglement climatique.
Alors là, il y a un peu de théorie là-dedans, mais la Russie, évidemment, puisque le réchauffement climatique, il y a tout le permafrost qui devrait se décongeler au bout d'un certain temps. Ouais. Donc la Russie pourrait, elle est déjà le premier exportateur mondial de céréales, elle pourrait doubler doubler ses exportations. Mais ça, c'est pas à gagner, hein, c'est pas demain matin. Par contre, vous voyez en Afrique, il y a quand même des endroits où malheureusement le désert progresse, hein, et ça fait que des pays comme le Tchad, le Niger, le Mali sont de plus en plus en difficulté, de plus en plus dépendants. L'Afrique, il y a des études qui ont été faites là-dessus. D'ici 2050, devrait multiplier sa production entre 3 et 5 pour se nourrir. C'est impossible. Impossible. Ils seront de plus en plus dépendants.
Comment vous évaluez le potentiel d'augmentation de la production agricole mondiale dans les années à venir? Vous dites, en fait, il y a une incertitude concernant ce potentiel de production qui dépend finalement du climat, de l'eau,
du terrain,
des surfaces et des rendements, bien évidemment. Oui. Donc, la technologie, un peu, quelque part.
Oui, la technologie vaut beaucoup, mais si vous êtes au Botswana, par exemple, Botswana, c'est du désert. Bon, faut pas demander aux gens de faire de la production agricole. Et c'est normal, comme ils ont du diamant, qu'à la limite, qu'ils utilisent cet argent du diamant pour nourrir leur population qui est très faible. À l'inverse, l'Afrique, elle a quand même du potentiel. L'Afrique, c'est un pays qui a de la réserve de terre. En Asie, il y a pratiquement plus de réserve de terre. Il y a des terres agricoles disponibles, il y en a pratiquement plus. En Inde, en Chine, fini, terminé. Par contre, en Afrique et en Amérique latine, vous avez encore un certain potentiel de terre. En gros, c'est autour de 100 millions d'hectares dans chaque continent.
Alors, Sébastien Abyss, vous posez l'équation fatale, j'ai envie de dire. C'est en gros l'horizon 2050. D'un côté, on va sans doute atteindre le point culminant de la population mondiale. Et en même temps, en 2050, on est censé arriver à la neutralité carbone. Concrètement, comment ces deux trajectoires vont se combiner pour nous imposer finalement un défi assez considérable?
Le défi, il est immense, c'est pour ça que j'ai pris la métaphore de l'Everest.
Ouais.
Parce que l'Everest, ça fait 70 ans que l'homme a su conquérir le toit du monde. Et en 70 ans, il n'y a que à peu près 7000 personnes qui sont montées sur le toit de l'Everest. Et ça, c'est très peu de personnes. Là, sur le toit de la sécurité alimentaire mondiale, il y a 10 milliards de candidats. Et on ne peut pas se permettre dans le monde d'aujourd'hui de dire qu'une personne qui arrive sur la planète ou quelqu'un qui est déjà là devrait rester sans manger. C'est une nécessité vitale encore en 2024. C'est un besoin du quotidien. C'est un besoin qui traverse les époques, les frontières. Et tout le monde est candidat à plus de sécurité humaine sur le plan alimentaire, et cette exigence de sécurité alimentaire, elle est indispensable. Elle est indispensable. Simplement, on est en train d'être dans une trajectoire qui ne s'est jamais présentée dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a 2 milliards d'habitants en plus sur la planète depuis l'entrée dans ce siècle.
Ouais.
On va encore gagner 2 à 3 milliards entre 2,45 et 2,70, et on va rester sur le toit démographique du monde pendant 2 à 3 décennies. Sur le toit de l'Everest, vous restez 5 à 15 minutes parce que vous n'avez pas d'oxygène et vous êtes épuisé. Et en fait, ce qui est périlleux, c'est la descente. Et en fait, si vous n'avez pas d'oxygène et vous n'avez pas les capacités de faire la descente de l'Everest, en fait, vous êtes mort. Et on sait que la viabilité planétaire, elle est en question aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas à la fois dire on doit embarquer du monde sur la sécurité alimentaire mondiale, et le travail de Philippe Ducroquet est très précieux à ce titre. C'est-à-dire, c'est complexe, la sécurité alimentaire mondiale. C'est de la géographie, c'est des ressources, c'est de la politique. C'est cette combinaison automatique entre du pouvoir, la ressource, la géographie, du climat, du vouloir. Quelles conditions politiques, sociétales j'organise pour cette conquête d'une sécurité alimentaire? Mais on ne peut pas embarquer 10 milliards de personnes dans la sécurité alimentaire demain, ce qui est déjà très difficile en soi, en faisant la même trajectoire que par le passé dans certaines régions du monde. C'est-à-dire qu'on va devoir, à la grande caricature, accepter de bien comprendre qu'il y a une partie du monde qui va découvrir ou redécouvrir la sobriété. Et la sobriété pour nos sociétés à nous, par exemple, c'est pas revenir en arrière, c'est pas avoir la tête dans le rétroviseur, c'est vivre autrement, faire autrement, et comprendre qu'il y a une pause stratégique sur le plan géopolitique qui nous amène à retrousser les manches.
Concrètement,
mais il y a une partie du monde qui veut s'arracher de la sobriété alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a besoin de consommer plus.
Oui, mais il y a une partie du
choix.
Oui, mais c'est pas... alors là, pour le coup, c'est pas de la sobriété alimentaire, c'est de la sous-alimentation.
Ah bah oui, mais eux, c'est de la sobriété forcée.
Oui,
et aujourd'hui, on peut pas leur dire vous développez pas.
Et alors eux vivent la sobriété forcée, et alors comment nous vous allez nous contraindre à la sobriété finalement, quelque part?
Mais parce que les transitions, ce ne sont que des contraintes, ce ne sera pas qu'une question alimentaire. La question alimentaire s'inscrit dans un cycle beaucoup plus large, multisectoriel. L'agriculture, d'ailleurs, doit être considérée comme un secteur d'activité central à ce titre, j'y reviendrai. Mais l'alimentation, demain, dans certaines régions du monde, le sujet, c'est d'arrêter de gaspiller, d'arrêter de surconsommer, de se dire qu'il y a justement aujourd'hui un enjeu mondial où on ne peut pas, entre la... Il n'y a pas de planète B pour le climat, mais il n'y a pas de planète B pour la géopolitique ni pour l'alimentaire. Aujourd'hui, on produit peut-être assez pour toute la planète, mais on ne produit pas là où les croissances démographiques explosent et où les instabilités politiques et sociétales sont les plus fortes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bout du monde aujourd'hui qui veut sortir de la sobriété, aller de l'avant, consommer, y compris d'un point de vue alimentaire, et il y a une partie du monde qui s'illusionnerait presque de pouvoir rester dans le même état de confort stratégique dans lequel il est. Et ben de la même manière qu'on redécouvre en Europe qu'on peut mourir de problèmes de pandémie ou qu'il peut avoir une guerre sur le continent européen, les prochaines années, les Européens vont redécouvrir l'importance d'une alimentation et donc devoir faire quelques arbitrages de dépenses et vont redécouvrir une chose, c'est qu'il y a un secteur qui est en phase avancée des transitions écologiques et des transitions de pratiques. C'est le secteur agricole qui est beaucoup plus que d'autres secteurs d'activité.
Mais est-ce
déjà
qu'on peut,
dans
qu'est-ce
la sobriété.
Qu'est-ce qui est insoutenable aujourd'hui dans la trajectoire? Alors, concernant la production, c'est-à-dire comment il va falloir produire demain? Quelle est la grande révolution?
La grande révolution, c'est plus rien jeter. Ça doit être interdit de jeter de l'alimentation au XXIe siècle. Ça veut dire aussi comprendre qu'aujourd'hui, dans les systèmes agricoles, comme on le voit en Europe et en France se développer, un agriculteur, il produit de l'alimentation, mais il produit aussi plein d'autres services. Il y a plein de coproduits. On va vers de la bioéconomie, on va vers de l'écologie circulaire.
Oui, mais alors le problème, c'est que tout ça, ça n'est quasiment pas rémunéré aujourd'hui.
Bah, c'est tout le problème.
Tous les services rendus autres que la pure production de produits agricoles.
C'est bien ce que j'essaye d'expliquer dans cet ouvrage. C'est qu'en fait, il faut raisonner mondial d'un côté, mais il faut aussi que chacun ait des engagements cohérent, c'est-à-dire on ne peut pas en Europe ou en France dire écoutez, l'agriculture, il faut qu'elle nourrisse. En même temps, elle doit entretenir les paysages. En même temps, elle doit aller chercher de la soutenabilité. Elle doit décarboner. Elle doit proposer de l'alimentation santé. Elle doit proposer par ses productions des biomatériaux pour faire les nouvelles constructions et bâtiments de demain dans des villes qui, en fait, découvrent, non pas qu'elles sont intelligentes. Les villes découvrent que les territoires ruraux et agricoles sont intelligents aujourd'hui. On nous a bassinés avec les smart cities. En fait, les intelligences sur l'économie réelle, à la fois de guerre, cette économie de guerre dont on parle beaucoup, et en même temps cette économie circulaire dont on dit qu'elle est centrale, les mondes agricoles sont pionniers. Qu'est-ce qu'il va falloir comprendre?
Allez, juste un petit point. Philippe Ducroquet, pour avoir une idée de ce que représente le gaspillage dans la production alimentaire mondiale.
5%.
20%.
20 à 30%.
C'est-à-dire, il y a 20 à 30% aujourd'hui de la production agricole qui devrait être consommée et qui n'est
disparaît.
Pas.
Mais c'est pas le même problème pour les riches et pour les pauvres.
Ouais.
Si vous voulez, parce que dans les pays pauvres, moi je suis assez heurté par la notion de productivité. La productivité, en Europe, en Occident, c'est un mauvais mot, c'est un gros mot. En Afrique, c'est pas un mauvais mot. Hein. Les gens, ils produisent avec un rendement 10 fois moins. Ils ont besoin de productivité. Donc, on parle pas des mêmes choses.
Ouais. Sébastien Abyss, il va quand même falloir faire une sorte de bond de productivité verte, parce qu'il va falloir produire plus et il va falloir produire aussi plus conformément aux intérêts de la planète.
Ça, c'est la théorie. La réalité probable, c'est qu'en fait, il va falloir prier très fort pour pouvoir produire autant qu'aujourd'hui, durablement, dans ce siècle. Rien ne nous donne aucune garantie aujourd'hui qu'on puisse produire plus demain. Philippe Ducroquet l'a évoqué, il y a plein de paramètres compliqués. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le changement climatique qui s'accélère, les dérèglements géopolitiques qui malheureusement se combinent à ces dérèglements climatiques, accentuent la complexité de l'acte agricole. Moi, je crois qu'il faut qu'on rentre dans une autre pensée sur ce 21e siècle. C'est que la quantité de production aujourd'hui agricole, il faut espérer pouvoir la produire la plus stablement possible, le plus longtemps possible, au cours de ce 21e siècle, pour justement franchir l'Everest. Je suis pas convaincu qu'on va pouvoir augmenter drastiquement la production agricole. Ça veut dire que l'un des risques...
Oui, mais donc ça veut dire... Parce que ça veut dire qu'on peut pas non plus... Donc, vous dites, on peut pas faire... C'est pas sûr qu'on puisse produire beaucoup plus.
Non.
Mais est-ce qu'on pourra produire beaucoup plus vert?
C'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir une cohérence d'ensemble sur le fait que quand vous êtes agriculteur ici ou ailleurs, vous demandez à l'agriculteur d'avoir une réponse de sécurité alimentaire, d'un côté, et en même temps, vous lui demandez d'être le protagoniste de la soutenabilité. Donc en fait, il faut qu'il ait les bons équipements, il a besoin de stabilité politique et de gouvernance, ça a été évoqué, il a besoin de revenus. Un agriculteur au XXIe siècle, c'est un métier d'avenir, les métiers des mains sont les métiers d'avenir, ils ont le droit de gagner beaucoup d'argent. Mais ça veut dire aussi que les consommateurs, dans notamment nos pays, qui pendant 50 ans, en gros, étaient les grands gagnants des politiques agricoles, parce qu'ils ont payé une alimentation qui était toujours plus verte, toujours plus bonne pour la santé, toujours plus disponible, y compris en plein milieu de la nuit, sans payer plus cher. Ça, c'est fini. La fête est finie.
Oui, mais Sébastien Bisse, vous voyez bien qu'en fait, il n'y a qu'une seule vérité pour le consommateur. C'est celle du prix.
Bah oui, mais le prix, il y a une question d'arbitrage.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ça coûtera beaucoup plus cher de se nourrir?
Non, je constate simplement qu'on a dit la même chose sur l'énergie. Et quand on a expliqué à tout le monde qu'il y avait un risque de pénurie énergétique et qu'il fallait baisser de 2 degrés la température chez soi, tout le monde, ou à peu près tout le monde, l'a fait. Donc, à un moment donné, quand on rentre dans le dur, et on est en train de rentrer dans le dur, moi, je pense que l'Europe doit définitivement considérer que la fin des 30 glandeuses a sonné. Elle ne peut pas s'assoupir, rester dans le canapé tranquille. Il faut se remettre à bosser. Les mondes agricoles, eux, bossent depuis 30 ans à la fois à ces transitions écologiques, mais encore une fois, l'alimentation ne peut pas coûter demain pas cher, c'est pas possible.
Mais en vous lisant, on sent qu'il y a deux leviers d'action principales. Il y a nos habitudes de consommation, vous le dites. Les premiers efforts, ils sont assez faciles à faire. Ce que vous citez sur l'électricité, suffisait juste de faire un peu attention. Mais on n'est pas vraiment rentré dans le dur. Là, ça veut dire quoi, rentrer dans le dur pour nous en matière d'alimentation? Et puis le deuxième levier que j'aimerais que vous évoquiez, c'est aussi tout ce qui concerne la gouvernance. Parce qu'on voit bien à travers ce que vous dites, que d'un côté, il y a les productions, que de l'autre côté, il y a les bouches à nourrir, et que si on n'organise pas quelque chose de différent au niveau mondial, on n'y arrivera pas.
Je vais vous dire, sur le plan alimentaire, encore une fois, déjà, au-delà des gaspillages, l'éducation alimentaire, plus que jamais, sera indispensable dans l'école de demain. Ça fait partie des savoirs fondamentaux, et l'éducation alimentaire, c'est aussi un incubateur à faire vivre les uns et les autres ensemble, parce que l'alimentation, il ne faut pas oublier la dimension sociale, plaisir, brassage culturel. L'autre chose, c'est les arbitrages de dépenses. Ce n'est pas normal aujourd'hui que la dépense alimentaire soit pas vue comme un investissement d'avenir. C'est sa meilleure assurance vie. Il faut pas mettre son argent à la banque, il faut mettre son argent dans son microbiote. C'est ça l'assurance vie durable. On va augmenter la longévité de la vie et de l'espérance de vie par l'alimentation. Ça veut dire redonner de la valeur à l'alimentation. Si vous dites que l'alimentation doit coûter toujours moins cher, vous lui faire perdre sa valeur intrinsèque. Le bon prix demain, c'est celui qui est bon pour sa santé, bon pour la planète, bon pour le producteur et les territoires. Sur le terrain international, quelle est la glissade qu'on observe et que Philippe Ducroquet montre bien avec Jean-Paul Charvet dans son ouvrage? C'est qu'il y a 15-20 ans, le sujet de la sécurité alimentaire, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau multilatéral pour réduire les risques? Comment on travaille ensemble? Qu'est-ce qui se passe depuis 2-3 ans avec cette crise du Covid qui a relocalisé les états d'esprit? C'est en gros chacun pour soi, souveraineté. Et au lieu d'avoir une approche, comme je dis dans mon livre, de souveraineté solidaire, parce que c'est ça ou rien, on explique qu'on pourrait tous partir
sur... C'est pas la logique des accords commerciaux, par exemple, où on donne, toi, un peu de porc, moi, un peu de volaille...
Mais il faut pas arrêter les accords commerciaux, il faut leur donner un équilibre. Et le sujet pour l'Europe sur les accords commerciaux vis-à-vis du reste du monde, c'est juste comprendre qu'en 2024, vous n'êtes plus dans le monde d'il y a 20 ans et que l'Europe, aujourd'hui, elle n'est pas le centre du monde.
Vous citez un chiffre que je voudrais quand même donner. Vous dites, les paysans, c'est un quart de la population active à l'échelle mondiale. 1,2 milliard de personnes.
C'est le premier employeur du monde.
Il n'y en a que 100 millions seulement qui vivent bien.
À peu près, oui, parce que dans la écrasante majorité des pays, encore une fois, Philippe peut en parler, les paysans ne sont pas regardés à leur juste valeur.
Non, je peux rajouter quelque chose là-dessus. Les petits paysans, ils avaient en moyenne un hectare il y a 30-40 ans. Maintenant, ils n'ont plus qu'un demi-hectare. Donc ça veut dire qu'ils sont appauvris. Certains sont partis, mais malgré tout, ceux qui sont restés, ceux qui ont profité, c'est les grandes multinationales, les holdings agroalimentaires. Ils représentent un millième, même pas. Ils représentent 5 000 à 10 000 holdings dans le monde, hein, surtout en Russie, en Ukraine ou en Amérique latine. Et ils représentent déjà 20% des surfaces agricoles. Donc les gros holdings ont de plus en plus de surfaces et les tout petits paysans se prolétarisent de plus en plus. Ils ont de moins en moins de surfaces disponibles.
Mais juste, Sébastien Viss, pour revenir sur notre modèle, alors peut-être vraiment plus proche de nos pays, est-ce que ce qu'on nous vend comme étant un modèle raisonnable d'avenir, c'est-à-dire ce côté français du petit producteur à côté de chez soi, chez qui on va aller chercher ses fruits et légumes, est-ce que c'est le bon modèle? C'est quoi le bon modèle, le bon circuit demain en France de production, de distribution, de consommation?
Bah précisément, je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on passe sur un autre cycle. Il n'y a pas de modèle agricole. En fait, il n'y a pas de modèle qui marche. Chaque agriculteur est un modèle à soi. La réalité d'un producteur dans le au Burkina Faso, au Maroc, dans le nord ou dans le sud de la France, sont pas les mêmes. Les réalités climatiques sont pas les mêmes. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces agriculteurs dans le monde entier ont des missions de plus en plus grandes à remplir et doivent être reconnus comme des métiers indispensables et d'avenir. Parce que, encore une fois, ils sont sur ces trois verticales, sécurité, soutenabilité, santé, dont je parle dans l'ouvrage. Mais ça pose une question sur notre regard aussi de l'agriculteur de demain. L'agriculteur de demain, il faut bien comprendre que d'ores et déjà, vous avez des agriculteurs en France qui, sur une seule journée, font 15 métiers différents et qui, d'une année à l'autre, vont tester des pratiques différentes. Donc, en fait, il n'y a pas un modèle figé, il n'y a pas un modèle muséifié. Ça, il faut sortir de cet aspect. Et encore une fois, si on veut comprendre l'agriculture comme elle est aujourd'hui, en France particulièrement, allez visiter la France rurale et la France agricole, n'allez pas au salon de l'agriculture. Ça renvoie une image qui est plutôt celle du XXe siècle.
Alors, il y a un modèle, peut-être.
Le mot de la fin, Philippe Ducroquet.
C'est celui où on parle souvent de l'écologie intensive.
Ouais.
C'est antinomique, hein. Ça marche. Donc, écologie, on pense tout de suite bichonner ces petites productions.
Ouais.
Intensive, comment ça peut se combiner ensemble? C'est faisable, mais c'est faisable à petite échelle. C'est faisable, si vous voulez, dans le jardin, les agriculteurs qui bichonnent bien leurs petites plantes. Bon. Mais sinon, si vous voulez, à grande échelle, c'est impossible. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Il y a un modèle qui s'appelle l'écologie intensive, mais il n'est pas encore développé et il n'a pas encore prouvé qu'il était capable de produire autant que les autres modèles.
Bah, y a des modèles où, effectivement, avec tout ce qui est permaculture, sur une petite surface,
oui,
on arrive,
oui,
à générer des rendements qui sont,
oui,
absolument...
Mais on ne va pas nourrir le monde.
Mais on ne va pas nourrir le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, vos trois livres même. Sébastien Abyss, Veut-on nourrir le monde? C'est aux éditions Armand Collin. Et puis, le Déméter 2024. Pour tout savoir, finalement, sur les mondes agricoles et leurs enjeux. Ça s'appelle donc Cultiver la paix en temps de guerre cette année. C'est la combienième édition?
30e édition, c'est l'anniversaire.
30e édition, donc à vous procurer absolument Iris Édition. Et puis Philippe Ducroquet et Jean-Paul Charvet, Atlas des politiques agricoles et alimentaires, c'est aux éditions du Rocher. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdedaïm et sa moisson d'études glanées à travers la planète, et puis Marjorie Adelson qui nous parlera d'histoire, d'économie et d'échecs aujourd'hui. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, animateur des pages livres aussi dans Alternative Économique, et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. Alors, messieurs, cette semaine, deux livres consacrés à Daniel Cohen, l'économiste qui nous a quittés au mois d'août dernier. Un livre qui est son dernier livre à lui, et puis un livre écrit sur lui. On va peut-être commencer par le livre qu'il a écrit, Christian Chavagneux. Ça s'appelle donc Une brève histoire de l'économie. C'est publié chez son éditeur historique qui est Albin Michel. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier opus de Daniel Cohen?
C'est plus qu'une brève histoire de l'économie, c'est une très brève histoire de l'économie, hein, parce que le livre est petit. Alors,
ouais,
on couvre de l'origine de l'homme pratiquement jusqu'à aujourd'hui en quelques pages, un peu dans le modèle des derniers livres de Daniel Cohen, avec des chapitres très 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 petits. Moi, j'étais très intéressé par le début, en fait. Daniel Cohen nous dit, au moment où il y a eu la sédentarisation agricole, il y a eu du progrès technique, à partir de là, on lance la course à la productivité. Il faut être productif, productif, productif le plus possible. Mais il nous donne des chiffres qui sont très étonnants, parce qu'il nous dit, cette course à la productivité va être efficace, il y aura de plus en plus de productivité, mais comme il y a de plus en plus de gens, ce qui revient pour chacun reste assez stable. Il nous dit que le salaire mesuré en blé qui était versé au XVIIIe siècle à Babylone avant Jésus-Christ et celui qui est versé en 1780 au XVIIIe siècle en Angleterre après Jésus-Christ, c'est le même. En fait, c'est le même niveau de salaire. Le pouvoir d'achat est le même sur ces 36 siècles. Oui, il y a des gains de productivité, mais il y a tellement de monde qui vient. La croissance démographique est telle que bah, pour chacun, ça ne fait pas plus. Alors après, on part d'Adam Smith... plein de petits chapitres, Adam Smith, Schumpeter, la crise des années 20, la crise des années 30, les 30 Glorieuses, tout ça en quelques pages, très rapide. Il faut préciser que c'est le manuscrit brut remis par Daniel Cohen. Il n'a pas eu le temps de le retravailler. Hein. Donc, est-ce qu'il l'aurait amélioré ? Peut-être, sûrement. Est-ce qu'il aurait rajouté des pages ? Peut-être. En tout cas, on va très vite au capitalisme actionnaire des années 80. Il est inégalitaire, nous dit Daniel Cohen. Se rajoute la transition numérique. On savait déjà avec son précédent livre, et là, il nous le redit, que c'est pour lui un asservissement digital, plutôt de l'homme, pour faire attention à ça. Plus la transition numérique, il dit ça, la transition écologique, pardon. Et là, dès la première page, il nous dit courir après la croissance comme des malades, c'est devenu complètement vain. On ne peut plus faire ça. Et bizarrement, moi je trouve vraiment très bizarre la fin du livre, les sciences sociales disparaissent complètement, elles sont présentes tout au long, elles disparaissent complètement, et on se retrouve avec 10 conseils pour une vie heureuse individuelle. Gagner de l'argent, mais pas trop, ne regardez pas trop les génies, parce que c'est des gens à part, essayez pas de vous comparer aux génies ou aux top modèles, laissez tomber, croyez à quelque chose. Enfin, les 10 conseils pour être heureux dans sa vie individuelle. Et j'ai trouvé cette fin assez surprenante pour quelqu'un qui était un économiste, et bien au-delà d'un économiste, quelqu'un qui savait maîtriser beaucoup de sciences sociales.
Ouais, Jean-Marc Daniel.
Oui, alors je partage le tout début de ce que vient de dire Christian. C'est vraiment très très bref. Hein. C'est une très brève histoire. Je pense que le dernier livre de Condorcet sur, c'est s'appelait Esquisse d'un tableau du progrès humain. Là, ça aurait pu s'appeler Esquisse d'une histoire de l'économie mondiale. D'ailleurs, à la fin, l'éditeur et le frère de Daniel Cohen disent qu'ils se sont posé la question de savoir si le texte pouvait être publié. Compte tenu des circonstances, effectivement, c'est un peu un hommage posthume au travail de Daniel Cohen. Il faut le prendre comme tel. Alors le tout début, effectivement, on l'a vu dans beaucoup d'endroits, c'est l'histoire de la grande évasion, c'est d'Angus Deaton, c'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, toute augmentation de la production et de la productivité conduit à une augmentation de la population. Et donc, il n'y a pas de gain individuel lié, il n'y a pas de véritable croissance entre l'Empire romain et l'Empire de Napoléon. Alors après, effectivement, on passe très très vite à l'époque moderne. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le portrait qu'il fait de Malthus. Il y a un passage assez long sur Malthus. Il dit que Malthus a été mal compris, a été assez décrié, que effectivement Malthus s'est trompé d'une certaine mesure puisque on a pu nourrir beaucoup plus de monde, mais on a nourri beaucoup plus de monde en détruisant la nature. Et donc c'est pas véritablement une solution qu'on a apportée. C'est une fausse bonne idée. C'est une fausse solution.
Est-ce que ça veut dire que Malthus raisonnait avec des limites du raisonnable en matière d'exploitation des ressources?
Non, il dit Malthus effectivement raisonnait dans le cadre des limites de ressources qu'il avait en tête, qu'il pouvait voir. Les gens qui lui ont succédé ont dit ah mais il a pas compris, les ressources sont beaucoup plus grandes. Et Daniel Cohen dit non, finalement les ressources n'étaient pas aussi grandes que ce qu'espéraient les successeurs de Malthus. Et il dit la solution finale, on parle beaucoup de progrès technique et tout ça. Donc avant le passage où il explique comment on doit être heureux, il dit bien finalement la solution va venir du fait qu'on a de moins en moins d'enfants et donc cette pression démographique que dénonçait Malthus, elle va se résorber parce que effectivement l'humanité est en train de décider de façon plus ou moins explicite d'être moins nombreuse qu'elle ne l'était. Alors j'ai trouvé cette analyse, cette vision de Malthus assez originale, mais effectivement il faut acheter ce livre en hommage à Daniel Cohen plutôt que avec l'idée qu'on va y trouver des choses définitives et très très importantes sur l'évolution de la pensée économique.
Alors, on passe au deuxième livre, toujours publié chez l'éditeur historique de Daniel Cohen, Albin Michel. Alors là, ça s'appelle Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer le monde. Jean-Marc Daniel, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit effectivement d'une sorte de florilège d'un certain nombre de réactions au décès de Daniel Cohen. Là aussi, il y a une présentation qui est faite par l'éditeur et par son frère, Michel Cohen. Et donc, ils ont choisi d'abord les communiqués officiels. Alors ça, c'est pas très intéressant. C'est vraiment de la communication assez basique. Le président de la République, l'école normale supérieure, tout ça. Bon, alors, bon, ça fait des pages. Bon, très bien. Ensuite, il y a la réaction des de la presse. Donc là, il y a des articles, alors j'avais pas repéré, mais il y a des articles qui sont à la fois documentés, évidemment, qui sont élogieux, mais qui sont pas caricaturaux dans l'éloge, contrairement au communiqué officiel. On voit apparaître une vraie personnalité de Daniel Cohen. J'ai beaucoup aimé j'avais pas repéré ça, mais les articles dans Le Monde de Philippe Escande, l'article dans Le Figaro de Anne de Guigné, que j'ai trouvé assez bien mené. Et puis ensuite, il y a...
Le mieux, j'espère, Jean-Marc.
Oui, absolument. Oui, bien sûr, ça va de soi.
J'attendais, mais...
J'osais pas.
Mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Et puis ensuite, après, il y a les pères ou les proches qui réagissent. Et donc là aussi, ça, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, il y a une espèce d'épaisseur du personnage qui apparaît. On passe de l'espèce de caricature mondaine des communiqués officiels à Daniel Cohen. Et donc, il y a deux anecdotes qui sont rappelées. Il y a un de ses amis qui est un médecin qui va le voir et il est à l'article de la mort, le pauvre Daniel Cohen. Et donc, il lui parle et puis Daniel Cohen lui dit « Oui, j'ai vu tes collègues. Ils m'ont annoncé qu'elles étaient, compte tenu de un certain nombre de circonstances, la probabilité que je m'en sorte. Et comme mon arrière, il va à 125 sur 100, je pense qu'on a essayé de me raconter des cracks. » Et donc, donc cette lucidité de Daniel Cohen. Et la deuxième, c'est Michel, le papier de son frère, encore une fois. Je découvre ce personnage, est très émouvant, très bien écrit. Il raconte que Daniel Cohen était fasciné par Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était à la fois polytechnicien et économiste, donc il a voulu être polytechnicien. Il est rentré à l'école normale supérieure, ayant été d'abord reçu à l'école polytechnique. Et puis ensuite, il a fait de l'économie, et il dit, s'il avait croisé à la télé ce cosmonaute, ben il serait peut-être devenu cosmonaute. Il y avait une période de sa vie où il se cherchait, et est apparu à ce moment-là dans sa vie Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a orienté son destin. Tout ça pour conclure qu'effectivement, on peut passer le début, et puis après, il faut grappiller dans les articles. Et les témoignages des proches sont vraiment à la fois émouvants, bien écrits, et permettent de bien cerner la personnalité de Daniel Cohen.
Christian ?
Je partage tout ce qu'a dit Jean-Marc. Franchement, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Cet ami médecin qui a cité les 125%, il dit aussi, il y a un proverbe arabe qui dit que quand les gens meurent, leurs jambes s'allongent. C'est-à-dire qu'on les voit plus grands que ce qu'ils n'étaient. Il dit, mais du coup, de son vivant, déjà, Daniel avait déjà les jambes bien longues. Et je trouve que c'est ce qui ressort. C'est un économiste dans la cité. Il a très longtemps fait des papiers avec plein de maths, des trucs publiés uniquement pour les académiques. À un moment donné, il a arrêté. On regarde ces dernières années, il n'y a plus de papiers académiques de Daniel Cohen. Il a préféré faire des livres pour le grand public, pour que l'économie soit à la portée de tous. Il a préféré conseiller les princes du Nord, les princes du Sud, grâce par la Banque Lazard. Bon, ça lui était reproché à un moment donné, mais il conseillait par la Banque Lazard les pays qui ont besoin de restructurer leurs dettes, et donc il les aidait à restructurer leurs dettes vis-à-vis des pays ou des banques créancières. On trouve aussi un économiste qui est un bâtisseur institutionnel. Il crée le département d'économie à l'ENS Ulm à Paris. Il crée avec Thomas Piketty l'école d'économie de Paris. Vous avez des, et c'est pas pour que les gens reproduisent sa pensée. Il n'y a pas une école de pensée cohéniste. Ouais. Mais vous avez beaucoup de témoignages. Esther Duflo, Camille Landais, Philippe Askenazy. Il y en a plein d'autres qui disent, c'est grâce à ça. On a trouvé une institution d'accueil et une façon de faire de l'économie qui désacralisait complètement l'économie, et c'est ça qui nous a plu. Esther Duflo a dit, moi je voulais pas faire du tout de l'économie, et j'ai croisé Daniel Cohen, je me suis mis à faire de l'économie. Il y a plein d'économistes comme ça qui témoignent, qui sont tous économistes un peu importants, tous dans le débat public aujourd'hui. Ils font des études académiques, mais ils veulent aussi être présents. Ils désacralisent l'économie, font de l'interdisciplinarité, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment nous manquer. Et en plus, quelqu'un qui était complètement affirmé à gauche en tant que citoyen, en tant qu'économiste, en tant qu'intellectuel. C'était très clair. Pourtant, il y a des gens de toute obédience, de droite comme de gauche, qui lui rendent hommage. Et c'est surtout ça, je pense, qui va nous manquer avec Daniel Cohen. Cet économiste, cet intellectuel engagé, de gauche, mais humaniste, profondément humaniste, très gentil avec tout le monde, et qui était quand même, il faut le dire, un intellectuel brillant.
Mais ce que vous disiez, Christian, est important sur cette volonté finalement d'abandonner la recherche et de se consacrer à la pédagogie. Et il faut bien reconnaître que finalement les Français le lui ont bien rendu, puisque quand on regarde finalement quels étaient les économistes qui vendaient vraiment beaucoup de livres. Le seul,
il en fait partie.
Le seul, ah, il y en a pas eu beaucoup. Thomas Piketty, il y a eu un ou, il y en a pas eu beaucoup. Il a fait un ou deux très gros coups. Daniel Cohen, il avait vraiment un public de fidèles. À chaque fois, il faisait 40 000, 60 000, 80 000 exemplaires. Et donc, c'est vrai qu'il a formé des générations de Français
à l'économie.
Merci beaucoup à tous les deux. Eh bien, on retrouve tout de suite Marjorie Adelson, notre bibliothécaire du jour, qui va nous parler d'échecs.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Bonjour Marjorie.
Bonjour.
Marjorie Adelson, journaliste à BFM Business et qui est notre bibliothécaire. Alors aujourd'hui, on parle d'un livre étonnant, ça s'appelle Un coup d'avance, c'est publié aux éditions Economica. De quoi s'agit-il?
Oui, alors déjà, est-ce que vous aimez jouer aux échecs, Emmanuel?
Pas du tout, je n'y connais rien.
Ben moi non plus. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'être captivée vraiment par cet ouvrage.
Ouais.
En fait, il propose un éclairage à la fois historique et sociologique qui nous montre qu'en fait, eh bien, les échecs sont le miroir de notre société.
Un mot des auteurs, Marjorie?
Alors, il y en a trois. Jean-Marc Payol est un ancien chef de la communication du groupe Allianz. Mathilde Choisy, bien, c'est une ancienne championne d'échecs et qui est aujourd'hui coach. Et enfin, Bachar Kouatli est président de la Fédération française des échecs.
D'accord. Alors, l'un des intérêts du livre, c'est expliquer le rôle des échecs dans l'histoire.
Oui, il revient par exemple sur l'impact de la défaite de la Russie lors des championnats du monde d'échecs contre les États-Unis.
Ouais.
Voilà. Et plus récemment, avec la guerre en Ukraine, je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans les médias, mais la Fédération d'échecs a annoncé qu'elle changeait de continent, elle a quitté l'Europe pour se rattacher à la Russie. Alors le livre nous explique en quoi les échecs, c'est de la géopolitique aussi.
La Fédération russe n'est plus rattachée à l'Europe, mais...
À l'Asie, comme quoi.
Et les échecs, c'est aussi un outil de soft power.
Oui, alors initialement, c'était plutôt un outil de stratégie militaire, mais très vite, c'est devenu un symbole de l'intelligence, très utilisé notamment dans la communication politique. D'ailleurs, Ronald Reagan ou plus récemment Donald Trump n'ont pas hésité à poser officiellement devant un échiquier pour se donner une forme de prestance à l'image.
On ne sait rien si ce sont de vrais joueurs.
Ça, on ne sait pas. Voilà. C'est la magie de l'image.
Alors, l'autre intérêt du livre, c'est qu'il nous raconte comment la pratique des échecs a évolué au rythme des technologies.
Oui, alors déjà, en 48, j'allais dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous étiez peut-être pas né, Alan Turing avait développé un algorithme de jeu d'échecs. Alors aujourd'hui, la pratique... ça date quand même. Aujourd'hui, la pratique, elle est majoritairement numérique. Beaucoup de championnats, d'ailleurs, se jouent en ligne. Et même l'apprentissage, a été amélioré par la digitalisation. Les plus grands champions du monde s'entraînent grâce à toutes sortes de bases de données qui sont extrêmement complexes et grâce à la puissance informatique. D'ailleurs, pas mal de secteurs, aujourd'hui, ont peur des progrès de l'IA, mais c'est pas du tout le cas des échecs, puisque de toute façon, on sait depuis longtemps que l'ordinateur, on peut battre l'homme lors d'une partie d'échecs.
Et bien voilà, ce petit voyage dans l'histoire des échecs. Merci beaucoup, Marjorie Adelson. C'est l'heure de retrouver notre Globetrotter. Je ne sais pas s'il est joueur d'échecs. On va lui poser la question.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Benaouda Abdedaïm, joueur d'échecs, Benaouda ou pas?
Non, plutôt de dames quand j'étais enfant.
Ah voilà, donc pas plus que nous. Benaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par l'Indonésie et ses startups technologiques.
Oui, l'Indonésie est présentée comme la troisième démocratie au monde, a voté ce mercredi. Le président Joko Widodo quitte ainsi le pouvoir muni d'une cote de popularité particulièrement élevé, c'est extrêmement étonnant. L'un de ces facteurs de cette popularité, c'est une modernisation extraordinaire de la première économie d'Asie du Sud-Est. Dans une note, le gestionnaire américain d'actifs PIMCO a mis en exergue d'énormes progrès dans le numérique et nous en avons ici dans ce travail de recherche toute l'illustration. C'est une publication conjointe de l'Institut SMERU de Jakarta et de la Banque Asiatique de Développement.
D'accord.
Il est expliqué comment ce basculement numérique national participe à modifier aussi les processus de production vers une industrie 4.0, sachant qu'à présent, l'industrie manufacturière est devenue le premier contributeur à une croissance économique qui atteint 5% en Indonésie. Palmira Permatabhatiar et ses co-auteurs se penchent alors sur cet écosystème des licornes indonésiennes, c'est-à-dire des start-up valorisées plus d'un milliard de dollars. Quelques noms, Gojek, Bukalapak, OVO, Tokopedia, J&T Express et d'autres, permettent ainsi aux Indonésiens maintenant de se commander à manger, de transférer de l'argent, d'organiser un voyage, de consulter un médecin ou de suivre une formation. Et ce document, particulièrement instructif, étudie quatre domaines d'application de cette tech indonésienne: l'agroalimentaire, l'éducation, la santé et la transition écologique. L'équipe d'analystes indonésiens explique que cet essor peut avoir un impact approfondi pour le développement socio-économique du pays, avec à la clé, comme il est de coutume, une série de recommandations. Parce que même s'il est souligné combien l'État indonésien sous Jokowi, le président Jokowi, depuis 4 ans essentiellement structure les programmes de soutien à la tech nationale, le financement reste très difficile à réunir dans ces 4 secteurs, car perçu comme encore à très haut risque. Plus d'options de financement au premier stade pour fournir un fonds de roulement aiderait les start-up indonésiennes et à démultiplier ce nombre de licornes, à dépasser la vallée de la mort, je cite, pour ces entreprises.
Alors, je vous cite le titre de l'étude suivante, dont vous allez devoir nous...
Ça sera explicité.
Voilà, parce que l'ésotérisme est assez présent. Perception divergente du format Visegrad 4+, et limite de la coopération Visegrad 4+, Japon. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je sens que c'est très important, Ben Aouda.
C'est très important parce que, rappelons que le groupe de Visegrad compte 4 membres, 4 membres, 4 pays d'Europe centrale, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, dont douce V. Et il a été formé en 1991 dans l'objectif de structurer les coopérations entre ces États d'Europe centrale qui furent de l'autre côté du rideau de fer avant d'intégrer l'Union européenne. Mais la proximité historique, géographique, culturelle de ce V4 par rapport à l'Europe occidentale n'efface certainement pas les divergences politiques en son sein de ce groupe, en fonction de l'accession ou bien le départ de telle ou telle majorité parlementaire. Et on le voit de nouveau actuellement, de façon frappante, entre un axe à grand trait Varsovie-Prague face à un axe Budapest-Bratislava, ce qui rend difficile de dégager des positions à défendre ensemble à Bruxelles lors des conseils européens. Et en plus, les éventuelles coopérations à quatre avec un partenaire extérieur, d'où le plus, sont devenus extrêmement aléatoires. Michal Kolmas, du département d'études asiatiques de l'Université de métropolitaine de Prague, présente ici la relation entre le V4 et le Japon, considéré comme le principal partenariat dans ce format depuis 20 ans, en raison de l'influence grandissante dans cette région de la Chine. Il ne s'agit plus, je cite ce chercheur tchèque, que d'un forum politique marginal vu de Tokyo. Les membres du groupe de Visegrad ont des perceptions différentes de la menace, avec peu d'intérêt ressenti à creuser ensemble la coordination économique avec les Japonais, quand bien même il s'agisse de la deuxième économie d'Asie et le contrepoids le mieux doté face à la puissance chinoise. En conséquence, pour l'auteur, si même le V4 plus Japon se vide de sa substance, comment le groupe de Visegrad, le V4, pourrait-il encore revendiquer une coordination de politique étrangère? Et pourtant, d'après cet universitaire tchèque, il demeure improbable que le V4 se dissolve, parce que là aussi, ça supposerait une action politique, une volonté radicale de l'un de ses membres, et aucun d'entre eux ne veut actuellement consacrer de l'énergie à cette rupture. Alors chacun attend que le vent politique, une fois encore, tourne dans son sens, que ce soit pro-libéral, pro-européen, pro-conservateur, ça tourne.
C'était très clair, Ben Aouda. On s'intéresse maintenant à l'insécurité au Mexique qui a un impact sur la consommation privée.
Oui, c'est le LACEN. Le LACEN, c'est le laboratoire mexicain d'analyse économique et commerciale basé dans la capitale mexicaine qui a sorti le mois dernier cette recherche. Elle établit à quel point l'insécurité dans ce pays latino-américain ampute la consommation privée et provoque une diminution de la confiance globale du consommateur. José Ignacio Martinez-Cortés et ses collègues l'abordent comme un paramètre macroéconomique, comme un autre, qui en soi fait fluctuer la croissance du produit intérieur brut. C'est dire l'importance de ce phénomène pour le Mexique. Au quatrième trimestre 2003, selon l'enquête nationale de sécurité publique urbaine, 59,1% des personnes majeures interrogées font part de leur sentiment de ne pas vivre en sécurité, et cela à travers 75 villes du Mexique, 65% des femmes, 52% des hommes, ce qui amène à modifier son comportement quotidien, son comportement vis-à-vis de la consommation. On ne porte pas d'objets de valeur, on évite les bijoux, on ne sort pas sa carte bancaire au minimum, on limite les retraits d'espèces, etc. On empêche les sorties de loisirs de ses enfants, de prendre un transport, de se rendre au restaurant, de se rendre au spectacle, etc. Ce qui, cumulé, aboutit y compris à une décélération des achats de fin d'année, donc ça couvre le quatrième trimestre, par rapport au potentiel a priori du niveau de vie, du niveau de pouvoir d'achat des Mexicains. Et ces économistes sont amenés à évaluer ce paramètre de l'insécurité dans les pronostics de consommation, car une majorité des Mexicains interrogés pensent qu'au mieux cette situation se stabilisera. Un quart pense qu'elle va empirer, sachant qu'au sein de l'OCDE, le Mexique se classe sur cet indicateur de sécurité publique et de sentiment à son égard, déjà extrêmement en retrait, avec de loin le taux d'homicide le plus élevé, 10 fois la moyenne de l'OCDE. Donc, la perception de l'insécurité combinée aux anticipations d'inflation, d'emploi et de taux d'intérêt risque de peser, d'après cette analyse, sur les dépenses des ménages mexicains. 2024 se profile comme la clé pour surmonter, je cite, ces défis de l'inquiétude mexicaine.
Le coût de l'insécurité. Merci beaucoup, Benaouda Abdennaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chabagneux, quel est votre dernier choix pour aujourd'hui ?
Bah, puisqu'on est en vacances, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, j'ai pris un roman économique, Le Voyage du Salem. Alors, le Salem, c'est un pétrolier qui part du Moyen-Orient, qui doit amener du pétrole au Havre, et arrivé en face des côtes sénégalaises, accident, feu, il coule complètement. Donc les autorités sénégalaises se disent, on va encore se taper une marée noire, rien du tout. En fait, le Salem est rempli d'eau salée, alors qu'il est rempli du pétrole au Moyen-Orient. Où donc est passé le pétrole ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous le dis tout de suite parce que je divulgue rien puisque on le sait dès le début, c'est une escroquerie. Le pétrole est passé ailleurs et on a rempli le bateau d'eau salée pour pouvoir toucher l'assurance et en même temps vendre le pétrole d'un côté et toucher l'assurance du pétrole de l'autre. Comment ça s'est passé ? Donc l'auteur va chercher, va enquêter. Petit à petit, c'est des petits chapitres, on va progresser. Et en même temps, entre les deux, il invente ce qu'est le journal de bord d'un des marins tunisiens à bord du Salem. Et donc, on suit l'enquête. C'est assez passionnant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette escroquerie qui a été impliquée? Et en même temps, on suit le journal de bord d'un marin à l'intérieur d'un tanker comme ça. Un petit livre qui se lit assez vite. Passionnant.
Jean-Marc Daniel, bon, un choix que nous co-signons. Hein, parce que d'abord, le sujet nous a passionnés parce que c'est un domaine un petit peu nouveau dans la science économique. Puis bon, allez, on va dire qu'on s'est senti un petit peu concernés aussi.
Exactement. Hein. Donc je vais dévoiler pourquoi.
Allez-y, dévoilez.
Ça s'appelle, c'est un repère, la collection La Découverte, ouais. Et ça s'appelle Économie de l'obésité.
Voilà. On pense qu'il est impossible que, même parmi les gens qui nous écoutent à la radio, aucun n'ait l'idée de nos trombines, en fait.
Et je crains qu'une certaine évidence soit aux yeux des gens qui nous regardent ou qui nous connaissent.
Et donc, c'est un nouveau champ de
absolument, d'ailleurs, c'est une universitaire, Nathalie Mathieu Boll, qui a écrit ce livre. Donc, elle examine les conséquences économiques de l'obésité, la situation d'évolution de l'obésité dans les principaux pays développés, le coût que ça représente. Elle dit, pour la France, ça représente l'équivalent de 20 milliards d'euros. Alors, elle se pose la question aussi de l'origine de l'obésité, et elle dit que les gens qui sont obèses sont des gens qui mangent trop par rapport à l'effort physique qu'ils développent.
Ah bah oui, mais là,
c'est pas forcément une découverte de très haut niveau.
Alors là, le coup, le fait qu'on absorbe plus de calories qu'on en dépense fait qu'on prenne du poids. Là, pour le coup,
je la sens susceptible de dire qu'on est plutôt victime de son obésité, coupable de son obésité, que victime de son.
C'est pas un livre de médecine,
pas du tout.
Il y a des champs nouveaux, il y a des.
Oui, alors elle propose effectivement de mettre en place des taxes sur le sucre, de réorienter les produits de consommation courante notamment dans les cantines scolaires, dans ces endroits-là, de faire une véritable éducation à la diététique et à la consommation alimentaire. Ouais. Et puis, elle appelle les gens qui sont obèses à une forme de sobriété.
Elle nous culpabilise.
Voilà, exactement. Voilà.
Moi, j'ai une théorie, Jean-Marc, vous la connaissez.
On n'est pas victime, on est coupable. Vous connaissez
ma théorie, c'est que c'est bon pour la croissance, mais c'est mauvais pour les comptes de la Sécu. Voilà.
Voilà. Alors, d'ailleurs, elle ne le dit pas quand on regarde les chiffres, c'est essentiellement le coût pour la Sécu, mais elle ne dit pas ce que ça rapporte aux agriculteurs, le fait que nous consommions en quantité importante les produits des agriculteurs.
Voilà, regardez. Un chétif comme Christian Chabagneux. C'est bon, vivre pour l'agriculture. Ils ne disent pas autant merci qu'à nous, mon cher Jean-Marc.
Allez, mais la sécu, oui.
Mais la sécu, oui. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.